OK, salut tout le monde. Bienvenue pour un nouvel épisode de Zoom sur l'intrapreneuriat. Cette semaine, aujourd'hui, on a vraiment une invitée extrêmement spéciale. Vraiment, on est extrêmement chanceux de l'avoir ici au podcast. Je suis certain que vous allez triper à l'écouter. Vous savez, depuis le début, on parle beaucoup d'intra, on reçoit beaucoup de gens qui sont intéressés, mais cette semaine, on a une vraie intrapreneur, une fille, une femme qui a développé ses projets en format intrapreneuriat et qui aujourd'hui occupe le poste de directrice nationale marketing pour Germain Hôtel. Mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui, on va en parler un petit peu en conclusion, mais on veut vraiment parler de son parcours d'entrepreneur. Je vous demanderais d'applaudir chez vous seul, là, en faisant votre vaisselle, chaleureusement, Gabrielle Madé! Yes! Ouh! Est-ce que tu entends la foule, Gab?
J'entends la foule.
Gabrielle, merci d'être là.
Ça fait plaisir.
C'est vraiment généreux de ton temps. Mm. Je suis vraiment contente de t'avoir ici parce que ton parcours est d'un très inspirant. Tu viens pas de l'hôtellerie.
Non.
Tu viens pas du monde de l'accueil.
Non.
Plutôt des médias.
J'ai été plus accueillie que j'ai accueilli.
Et maintenant, comme ça. Avec le poste que tu occupes aujourd'hui, clairement, tu peux mettre à profit toutes les compétences que tu as développées depuis le début de ta carrière. Grande joueuse de basket, d'ailleurs. Ça, je sais que ça intéresse des gens qui écoutent. Mais sans blague, tu viens vraiment des médias. Peux-tu nous parler peut-être un peu de toi, là, de ton parcours là, mm-hmm. en quelques minutes?
Ben oui, certain. Donc, moi, j'ai toujours d'abord et avant tout été attirée par tout ce qui s'appelle la culture au sens large, les médias, ce qui forme qui nous sommes comme peuple ou comme individu du côté culturel ou médiatique. Donc, je suis allée chercher un bac en production médiatique et ensuite une maîtrise en médias numériques où je me suis intéressée à ce qui se passait sur Internet surtout. Donc, en 2010-2011, je me suis mise à m'intéresser à ce qui se passait au niveau de la websérie. Puis, pour situer un peu tout le monde, quand j'ai défendu ma thèse de maîtrise en 2012, il a fallu que j'explique à mon jury de thèse c'était quoi de la websérie. Fait qu'on était là, ça fait quand même presque 10 ans de ça. Je me suis intéressée beaucoup à la culture numérique. Puis par la suite, je me suis mise à m'intéresser beaucoup aux créateurs de la culture numérique. Donc à ce qui se passe sur le web, les gens qui créent, les gens qui se mettent par eux-mêmes de l'avant, qui créent des petites productions ou des grandes productions qui eux aussi font partie de la culture finalement puis influencent les gens autour d'eux. À terme, ces gens-là, on a commencé à les appeler des influenceurs, mais quand je me suis intéressée à eux davantage, le terme n'existait pas. C'était okay. YouTuber ou créateur numérique ou le gars sur Internet.
Ouais. Fait qu'on voit que ça fait quand même plusieurs années là, que tu es dans le bain.
Oui.
Puis la raison pour laquelle on t'a invité cet après-midi et que tu as si gentiment accepté, c'est pour parler un peu de ton parcours d'intrapreneuriat. Peux-tu nous parler un peu des mécanismes, de comment ça s'est manifesté dans ta vie?
Mm-hmm.
C'est-tu une opportunité que tu avais vue en un poste affiché? C'est-tu quelqu'un qui a pensé à toi? T'sais, on veut vraiment comprendre les racines de ce projet, puis peut-être même pour commencer, tu peux commencer par la fin en disant c'était quoi le projet, puis on va peut-être revenir après pour essayer de comprendre comment ça s'est mis en place.
Certainement. Moi, j'ai mené mon entreprise dans un contexte d'intrapreneuriat, donc mon entreprise dans une entreprise pendant 5 ans. Et ça s'appelait le studio Le Slingshot, qui était une entité dans une boîte média au sens plus large qui s'appelle Attraction Média. Donc, j'ai mené à titre de directrice générale et associée. J'avais des parts dans l'histoire aussi. Ça aussi, ça fait partie de l'intrapreneuriat parfois. J'ai mené un studio qui était en fait une agence pour YouTubeurs, Instagrammeurs, créateurs du numérique, réalisateurs en ligne, etc., etc. On peut leur donner plein de noms. Les médias en général les appelleraient des influenceurs. Nous, on choisissait d'utiliser le plus souvent possible un autre terme plus élogieux. Mais donc, j'ai représenté, j'ai été agente de YouTubeurs, d'Instagrammeurs, d'influenceurs pendant 5 ans. Et j'ai mené cette petite business-là, puis je l'ai amenée à se développer. Donc, on offrait des services de représentation. Moi, quand tu voulais faire affaire avec telle YouTubeuse ou telle Instagrammeur, ben, c'est moi qui te parlais, toi, la marque. Puis je te disais, tu es Coca-Cola, tu veux faire affaire avec trois de mes protégés, ben voici leur tarif, puis on négociait. Donc, il y avait cette portion-là, représentation.
Ça, c'est une première au Québec, juste pour contextualiser. Oui,
au moment où on a lancé, effectivement, en 2015, ça existait ailleurs dans le monde. C'est un modèle qui existait aux États-Unis, en Europe, mais ça n'existait pas encore pour le Québec. Donc, il fallait sauter sur l'occasion. Et maintenant, il y en a plein.
Ça foisonne quand même.
Il y en a plein. Puis à travers tout ça, j'ai fait de l'intrapreneuriat dans mon intrapreneuriat, c'est-à-dire qu'une fois que la portion agence roulait un peu mieux, représentation, là, on a lancé un festival en co-création, en coproduction avec Juste pour rire, qu'on a tenu deux étés de temps. Puis après ça, on a aussi lancé une branche de e-commerce. Donc là, on tenait des boutiques en ligne pour certains des gens qu'on représentait, puis on faisait faire des vêtements, on faisait faire des accessoires, on a lancé des collections de papeterie. Tu sais, on a diversifié finalement ce qu'on faisait avec ces gens-là, mais tout ça dans une même agence tout le temps. C'est toujours le slingshot qui faisait ça, juste on ajoutait des cordes à notre arc.
Wow, c'est passionnant. Là, je pense que là, vous comprenez là, pourquoi on a Gabriel avec nous là, cette semaine. Puis, en fait, OK, donc, juste pour revenir encore plus à la base. Oui. Maintenant, on comprend le projet, du moins sommairement. Là, je suis certain que tu n'aurais pas à parler vraiment en détail, mais comment tu es arrivé dans cette position-là? Comment on devient une entrepreneur? Chaque parcours est différent et unique, assurément, selon les entreprises, le projet. Mais est-ce qu'à la base, la boîte média qui s'appelle Attraction, qui s'appelle toujours Attraction d'ailleurs?
Toujours.
Est-ce qu'il y avait une culture de l'entrepreneuriat avant toi?
C'est vraiment une bonne question parce que au moment où je suis arrivée, Attraction était effectivement dans une quête de croissance, mais par acquisition. Attraction achetait d'autres boîtes, achetait une boîte de pub, achetait une boîte qui faisait de la trame sonore ou du son, achetait une boîte de ceci, cela, et j'ai été le seul produit intrapreneurial. C'est pas vrai. Le slingshot a été le seul produit intrapreneurial dans l'histoire, effectivement. Mais Attraction était à la base, effectivement, un terreau fertile parce que c'était une entreprise qui était due, qui était mûre pour grandir et qui cherchait à grandir. Donc, il y a eu cet intérêt-là envers moi. La genèse un peu de tout ça, c'est que précédemment, donc en sortant de ma maîtrise, j'avais un travail en médias. Je travaillais au Fonds des médias du Canada. Ma job, c'était de surveiller les tendances. Fait que c'est vraiment la plus belle job au monde. T'es payé pour lire des billets de blog puis aller dans des conférences. Moi, j'avais du temps en plus de mes 45 heures semaine, 50 heures semaine. Donc, j'ai toujours eu un... C'est ça, là, moi, j'aime ça faire. Je suis impliquée. Ça ne m'intéresse pas beaucoup d'être assis chez nous sur mon sofa. Là. J'aime bien faire des projets.
Ouais, faut dire que tu es sur plusieurs CA. D'ailleurs, je me permets de le mentionner. Tu es super impliquée. Tu as lancé même les Fell Camp, entre autres. Il y en a qui écoutent, qui ont déjà réfléchi là-dessus, qui ont...
C'est là que je m'en allais, fait. C'est qu'à cette époque-là, maîtrise en poche, très peu d'expérience encore professionnelle en poche, mais je commençais à développer un tout petit réseau autour de moi. Puis, on a lancé avec quelques amis, quelques gens que je connaissais de près de loin, on a lancé les Creative Mornings. Donc, Creative Mornings Montréal, on a lancé ça. Puis, ça a été, c'était donc une conférence matinale par mois, le dernier vendredi du mois. Puis, on attirait the creative crowd. Là. Fait que les créatifs de qui venaient d'un peu partout en ville voir une conférence de 20 minutes avant d'aller travailler un vendredi.
En présentiel, à l'époque.
En présentiel, on n'aurait jamais pensé faire ça à distance, jamais. Ben parce non. que tu venais à Creative Mornings, de un, pour le café chaud, le déj offert, et de deux, pour l'expérience, pour rencontrer du monde avant d'aller à ta journée de travail, tu sais. Fait que ça, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait 25 éditions de Creative Mornings. Donc, 25 mois en ligne. Ça, c'est 2 ans et 1 mois.
Wow.
Ouais, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Puis moi, ma portion là-dedans, c'est que on changeait de lieu à chaque mois. Donc, je trouvais un nouveau lieu à travers la ville. Je trouvais comment on allait projeter, arranger le son, comment on allait accueillir les gens. Tu vois, l'accueil! C'est là, l'accueil!
On est là! Mais depuis tantôt, on est carrément dans l'accueil là, de ce que tu dis. C'est fou, là. C'est exactement ça. Mm. C'est la passion d'accueillir, c'est la passion d'être en relation.
Ben, moi, c'est comme la passion de faire quelque chose, juste de bouger un peu puis de rencontrer des gens. Moi, je pense qu'une de mes grandes forces, c'est le réseau que j'ai. Donc, bref, on a fait Creative Mornings. À travers Creative Mornings, on a aussi lancé Fell Camp, qui est une conférence annuelle sur l'échec. sur nos moments les moins glorieux, sur les fois où on s'est planté. Fait que ça aussi, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça cette fois-là, oui, au niveau de trouver les lieux, mais aussi au niveau du contenu. Donc, travailler avec les conférenciers à savoir qu'est-ce qu'ils allaient nous raconter, puis jusqu'où ils allaient aller dans leur zone un peu sombre. J'ai appris énormément de ça. Fail Camp, c'est quelque chose que je traîne encore dans mon style de gestion au quotidien. Un échec autour de la table, on va en parler parce qu'on va le dédramatiser, puis on va avancer de ça, puis c'est parfait. Si on échoue, c'est parce qu'on essaye. Fait que ça, Credit Morning, Fail Camp, ça m'a mis sur la map, ça m'a créé un réseau, ça a fait en sorte que j'avais 25, j'avais 26 ans, pas encore beaucoup d'expérience, mais les gens, force est de constater qu'à un moment donné, mon nom s'est mis à circuler un peu plus, puis ça me positionnait aussi bien pour mon employeur de l'époque, parce que j'étais comme super active, fait que tu sais, c'est attrayant, un employé qui fait des choses, fait que ça fait en sorte que j'ai eu l'opportunité à gauche, à droite, une fois à la radio, une fois à l'écrit en blog et tout ça, j'ai eu l'opportunité de commencer à parler d'un sujet qui me passionnait plus que les autres, qui était le sujet des créateurs numériques, puis des YouTubers. À ce moment-là, c'était vraiment YouTube là, qui était super tendance. J'ai eu l'opportunité de me faire vocale sur cette tendance-là, moi, que j'aimais, qui m'intéressait, juste parce que je m'étais créé un bon réseau. Puis à un moment donné, ben, j'étais tombée sur un animateur radio qui m'avait invité à en parler, puis l'autre fois, telle plateforme qui m'a invité à bloguer, puis tout ça. Puis je me suis mis à en parler une fois à l'université, puis une autre fois, puis bon. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'intéressait à ce sujet-là, à ce moment-là.
Le temps a changé quand même. Hein?
Les temps ont changé, vraiment. Vraiment, il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'intéressait à ça. Mais il y avait quelqu'un chez Attraction qui s'intéressait à ça lui aussi. Puis, ben, à un moment donné, on s'est croisés dans un événement, dans un autre événement, puis on a jasé de comme, ah oui, c'est vraiment intéressant, ouais, parce qu'il y a une business derrière ça, mais moi, je pense qu'il y a un modèle d'affaires. OK, tu sais, tranquillement, pas vite. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'avais quitté mon emploi au Fonds des médias du Canada. J'étais due pour faire autre chose. J'étais due pour essayer autre chose. Puis, j'avais pris des mandats à la pige à ce moment-là. J'ai pris des mandats pour plusieurs diffuseurs télé, par exemple, là, dans les médias, dans quelque chose que je connaissais. Puis, donc, cette personne-là, chez Attraction, m'a donné 3 semaines pour faire un mandat, pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'Attraction pourrait faire avec YouTube? »
Parce que eux aussi, en fait, ils étaient à la croisée des chemins à ce stade-là pour un peu se rajeunir en termes de positionnement ou même pas. On était en mode on explore.
Pas du tout. C'est plus, il existe quelque chose de nouveau qui est dans la sphère médiatique, la sphère du contenu. Attraction fait surtout encore à ce jour de la télé.
Ouais, donc
faisait de la radio.
Crise en la demeure ou rien.
Non, c'était une opportunité de plus. Okay. Puis moi, je connaissais ça parce que je m'étais fait bien vocale. Donc les gens savaient que ça m'intéressait. Okay. Fait que, bon, j'ai attiré l'attention de cette façon-là. On m'a donné 3 semaines pour faire un mandat, pour livrer un papier, pour dire qu'est-ce qu'une boîte comme Attraction pourrait faire avec YouTube, hyper large.
Au CA, au board de direction, ou à ton contact, puisqu'il y a déjà...
À mon contact.
C'est ça, à mon contact direct,
oui. Okay. Et puis, j'ai fait ça. J'ai dit ce que je pensais. J'ai shooté mes idées selon ce que je voyais dans le marché. Puis, on m'a rappelé, quand j'ai déposé mon papier, on m'a rappelé, puis on m'a dit « Écoute, on aimerait ça discuter avec toi de la possibilité que tu rentres à l'interne pour venir faire ce projet-là. » Fait que ça, c'est le début de l'intrapreneuriat.
Wow! Et cette genèse tellement importante, j'ai l'impression, parce que dans la littérature sur l'intrapreneuriat, on parle des compétences, un peu des skills, des qualités d'un intrapreneur qui diffèrent quand même de celles d'un entrepreneur, mais on voit que toi, t'avais... visiblement les deux.
Les deux, je pense.
Déjà créé...
Parce que j'étais déjà une employée. Je savais ce que c'était de travailler dans un cadre. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas besoin, je suis pas comme une entrepreneur, j'ai pas besoin de prendre toutes les décisions tout le temps. Je peux très bien travailler dans un environnement où j'ai un boss, puis ça se passe bien, là. Mais d'un autre côté, moi, je l'avais cette impulsion-là, ce oomph-là de partir des affaires, partir des projets, pas trop savoir, pas avoir tout de suite toutes les réponses, mais avoir un sentiment que c'est dans cette direction-là qu'il fallait aller. J'avais les deux côtés de la médaille, je pense. Fait que c'est ça. Fait qu'on m'a proposé d'entrer chez Attraction avec un titre dont je ne me souviens pas à ce jour tellement ça n'avait pas d'allure. Ça avait tellement aucune résonance parce que finalement, je rentrais pour remplir une mission qui était super expérimentale.
Ouais, il y avait beaucoup de R&D, quoi, à un certain niveau, non, aussi? Un peu de recherche et développement là-dedans.
Mais c'était purement ça. C'était comme... Puis pour vrai, si j'avais pas réussi à livrer, si j'avais pas réussi à faire quelque chose si j'avais pas parti de cette business-là, je pense pas que je serais restée. T'sais. Oui. On m'a pas embauchée pour être une employée du groupe Média. On m'a embauchée pour aller gratter ce qu'on pensait qu'était une opportunité de marché. C'est de l'entrepreneuriat, là, carrément. Là.
Et dès le jour 1, est-ce que tu avais un budget? Est-ce que tu avais déjà un ou deux assistants employés en dessous de toi? Comment ça fonctionnait par rapport un peu à, oui, développer, mais tu as besoin quand même de ressources, tu as besoin d'un avocat peut-être, tu as besoin d'avoir accès à quelques, je sais pas, à quelques contacts à l'interne aussi. Comment ça s'est mis
comment
en place?
Comment ça s'est passé? Bien, tu sais, on m'a beaucoup demandé pourquoi j'avais pas parti ça tout seul, cette affaire-là. Pourquoi je m'étais collée à plus gros que moi? Pourquoi j'avais pas parti ça tout seul chez nous, puis posséder 100% des parts, puis si je l'avais l'idée, pourquoi j'ai pas fait ça? Puis honnêtement...
Ce qui est une bonne question.
C'est une question tout à fait valide, mais absolument. Je pense que c'était le bon chemin à suivre que de faire ça dans le contexte où je l'ai fait, puis je le referais exactement de la même façon, parce que moi, dès le début, pour le type de business que je voulais lancer, j'avais d'abord et avant tout ma ressource première, c'était les talents, les gens à représenter. Je devais donc gagner la confiance de jeunes gens, on va se le dire. Ils étaient tous entre 16 et 25 ans au début, 16 et 28 ans. Ils ne me connaissaient pas. Je ne les connaissais pas. Je les connaissais de l'Internet, mais je ne les connaissais pas en personne. Et je devais gagner la confiance de ces gens-là pour qu'ils me confient le mandat de les représenter dans ce qui était une agence qui n'existait pas comme modèle à cette époque-là. Fait que, tu sais, le niveau de confiance, il était comme... Il y avait beaucoup de couches, là. D'être dans une entreprise légitime, qui avait des beaux grands bureaux dans un quartier trendy de Montréal, qui est le Mile End, qui a une fiche de route, qui a produit tel film, qui a produit telle série télé, de pouvoir les recevoir dans une salle de réunion qui a de l'allure, d'avoir, moi, dès le début, accès à un avocat in-house, une équipe de comptabilité in-house, d'avoir accès aussi à des VP qui n'étaient pas proches de mon sujet à moi, mais qui avait une expérience dans le domaine média, ça a tout changé. Sinon, j'aurais pas été crédible. Faire venir ces jeunes-là chez nous dans mon salon, je pense pas que ça aurait été crédible. Puis l'histoire a montré qu'on a réussi à en signer la vaste majorité de ceux qu'on a approchés dès le début. Okay. On a vraiment eu un super beau départ. Fait que je pense que toute la machine derrière a fait la différence.
Puis chez Attraction... Et c'est tellement intéressant, c'est tellement pertinent tout ce que tu dis, parce que on comprend vraiment la démarche, mais est-ce que chez Attraction, il y a eu des fois des freins peut-être qui, sans le vouloir, peut-être qu'ils ne comprenaient pas ce que tu faisais? Toi, est-ce que des fois, il y a plein d'avantages, hein, ce que tu viens de dire, c'était le bon chemin, mais est-ce qu'il y avait des fois l'autre côté à la médaille, en disant, ah, là, j'aimerais peut-être avancer plus vite?
Oui, c'est sûr que... J'étais celle qui s'est le plus intéressée à mon type d'activité. Effectivement, à un moment donné, les parallèles entre représenter du monde qui font leur vie sur le web puis dealer avec des marques, t'as beau avoir du monde de TV à côté, à un moment donné, les parallèles, il y a une limite à ce que tu peux faire. Fait qu'effectivement... j'étais pas dans une boîte où on était 200 à s'intéresser au même sujet. J'étais dans une boîte où je m'intéressais au sujet, puis les autres travaillaient dans le même domaine que moi, mais c'est assez rapidement, parfois je cherchais, plus le temps a avancé, plus on a sophistiqué nos activités, on s'entend là, parfois je cherchais le petit conseil ou le petit écho, ou « Hey, toi, t'as-tu déjà vécu ça? » Puis tu sais, c'était pas tout à fait ça, fait qu'il y avait des petites limites là, mais rien de fou honnêtement là. Puis sinon, ben, tu sais, une des grandes clés, parce que ce que je faisais était quand même assez nouveau puis assez particulier, puis aux yeux de plusieurs, aux yeux de certains, tu sais, ça allait peut-être être un feu de paille. C'était peut-être vraiment juste la tendance du moment. Puis ces affaires-là, là, d'Internet, là, ça durera pas, là, tu sais. Fait qu'il a fallu que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la crédibilité de la branche et ma crédibilité à moi, comme leader de cette branche-là. Puis, tu sais, comment je me suis pris, c'est que je me suis trouvé des alliés à l'interne. Je me suis arrangée pour avoir des gens qui comprennent mon langage, pas être toute seule à parler à utiliser les termes que j'utilisais ou tu sais, tout ça. Fait que je me suis mis mon avocat de mon bord. Je l'ai charmé par une personnalité irrésistible.
Assurément. Non,
mais je l'ai surtout charmé parce que on a eu des discussions de fond. Parce que j'ai voulu l'avoir dans mon équipe. J'arrivais pas là avec mon paquet de problèmes de jeunes. J'étais comme, non, non, on monte une business en ce moment, là, on est ensemble. Fait que, tu sais, mon avocat a été comme un grand allié pour moi. Les gens de la compta, je faisais pas juste leur garrocher un paquet de papier là, pour dire « Voici des problèmes plus compliqués que ce que vous avez avec les autres branches. » C'était comme « Écoute, faut que je te parle de Cynthia. » Cynthia, là, son projet actuellement, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que quand tu regardes les chiffres, ça donne... Tu sais, là, j'essayais d'étendre ma passion pour me trouver des alliés à l'interne qui allaient comme y croire eux aussi.
Un peu de lobbying à l'interne, quoi.
Un peu de lobbying à l'interne qui allait accorder de la crédibilité à ma branche, qui allait m'accorder de la crédibilité à moi, puis qui allait m'aider à trouver des solutions pour un peu briser cet isolement-là. T'sais. Fait que j'ai beaucoup fait ça.
Wow! Si on analyse, disons, tu as passé 5 ans chez Slingshot.
Oui.
Du début jusqu'à la fin, est-ce que tu es restée la seule dans ce projet-là ou justement à partir de quand tu as commencé à embaucher? Donc là on voyait là, se matérialiser l'entreprise dans l'entreprise, right? Donc ceux que tu embauchais, ils étaient embauchés par Slingshot dans Attraction. Oui. Donc là, c'était plus seulement toi qui étais un peu l'ambassadrice.
Oui. Fait que là, dès le début, donc il y a le gars là, qui est venu me chercher au point zéro là, au départ, là, qui a travaillé sur le Slingshot avec moi là, pas mal la première année. Puis après ça, il est retourné aux activités qu'il faisait déjà chez Attraction. Puis là, je me suis mis à embaucher du monde là, qui travaillait dans la vie là, sur leur CV. C'est écrit Studio Le Slingshot.
Oh, wow.
Leur payroll, ça venait de chez Attraction.
Ouais.
Mais sur leur CV, c'est Studio Le Slingshot. T'sais. Puis oui, effectivement, à terme des 5 années, on représentait une 40aine de talents. Puis j'avais une équipe de 6.
Wow! Donc, ceux qui écoutent encore en ce moment, là, ça, je tiens vraiment à parler à vous autres en ce moment, les mécanismes que Gabrielle explique en ce moment, ben ça, ça vaut de l'or. Mm. Parce que c'est extrêmement transférable dans tous les domaines d'activité, à un certain niveau, un peu de comprendre une genèse, même avant la genèse du projet, les skills que Gabrielle a développés par elle-même en tant qu'entrepreneur, qui devient une intrapreneur, qui aujourd'hui occupe un poste de gestion, de direction nationale pour Germain Hôtel. Tout ça se tient, quoi. Est-ce que des fois, tu regardes un peu derrière en disant « ça, ça a amené à ça, ça a amené à ça, et ça fait de toi la femme d'affaires d'aujourd'hui, et la citoyenne aussi, ça semble assez important, ce pilier-là aussi d'implication. » Est-ce que des fois, tu regardes derrière un peu?
Il y a une citation que j'aime beaucoup de Steve Jobs là, qui dit que « You cannot connect the dots looking forward ». You can only connect them looking backwards. Des fois, un parcours, ça peut avoir l'air de passer du coq à l'âne. Puis c'est sûr que quand tu te projettes dans le futur, tu peux pas, j'aurais pas pu dire en finissant ma maîtrise que j'allais faire ceci, puis ensuite cela, puis ensuite cela. J'aurais certainement pas pu dire que j'aurais abouti en une hôtellerie, là. Vraiment pas.
Et que tu feras un podcast sur l'entrepreneuriat.
D'ailleurs,
on est dans les bureaux, hein, en ce moment. Oui. Alt, Griffintown, Germain Hôtel. On est toujours bien accueillis dans la chouche.
On vit l'ambiance, là.
On vit l'ambiance.
Oui, oui, oui.
Mais c'est vrai que c'est dur de...
Tu peux pas... Des fois, c'est très angoissant quand on est au niveau des études. On a l'impression qu'on apprend rien. On est comme, moi, j'ai fini mon
bac. Presque rien.
Moi, j'ai fini mon bac, puis j'étais comme, je ne sais rien faire. Effectivement, j'avais appris à réfléchir. Ce qui n'est pas super utile comme dans les skills du quotidien, là, mais ce qui est super utile pour ta vie puis ta carrière, mais bon. Puis quand tu essaies de te projeter puis de te dire, hey, moi, je voudrais arriver là, donc la prochaine étape, c'est ceci, puis ensuite cela, c'est très angoissant et très difficile. Puis si tu prends un parcours comme le mien puis tu me le remets d'en face il y a 10 ans quand j'étais étudiante, j'aurais dit, mais ça n'a aucun bon sens. Ça tient pas la route. Je fais n'importe quoi. Et pourtant, quand tu regardes derrière, ben, t'es comme, bien sûr, j'ai pris 2 ans pour être analyste, pour analyser les tendances. Il y a une tendance que j'ai aimée en particulier, j'en ai fait mon métier. De là, dans le studio Le Slingshot, j'ai non seulement trippé sur mon petit carré de sable, parce que je les aimais vraiment beaucoup, ces créateurs-là, puis j'avais vraiment du plaisir, mais je suis devenue une gestionnaire en faisant ça. J'ai développé des skills de négociation. Je suis devenue une bonne leader d'équipe, d'entreprise, qui fait en sorte que maintenant, je peux prendre une équipe au niveau national. Tu comprends?
Oui.
Quand tu regardes derrière, absolument. C'est super facile de les connecter, là, les dots. Là. Fait que c'est beaucoup ça. Ça a peut-être l'air d'un parcours un peu éclaté.
Ça se tient, c'est tellement cohérent.
Mais ça se tient, c'est ça.
Puis, justement, tu sais, quand tu regardes un peu backwards, c'est une super belle citation de Steve Jobs, d'ailleurs. Merci pour ça, je suis certain qu'ils l'ont noté, là, ceux qui écoutent. Est-ce que, tu sais, dans la première année là, de Slingshot, tu sais, on va revenir à ce projet d'intra, c'était quoi les deux principaux défis que tu avais? Tu as parlé un peu de l'isolement. Est-ce que c'est à ce point-là? C'était-tu un défi
pour toi? Non, c'était pas au début. Okay. Au début, j'avais plus de gens autour de moi à l'interne. Au début, je te dirais, c'est de définir le modèle d'affaires. Je voulais mettre en place quelque chose qui n'avait pas vraiment été fait sur notre territoire, qui fonctionnait ailleurs, mais dans d'autres paramètres. Le Québec, c'est pas mal plus petit comme terrain de jeu que la France ou que les États-Unis. Il y a moins de monde, il y a moins de cash aussi, tu sais. Fait que ça a vraiment été de définir le modèle d'affaires, un grand, grand défi. Est-ce que ça peut faire de l'argent, cette affaire-là? Ça se peut-tu? Y a-tu un marché? C'est des questions d'affaires beaucoup qui m'ont préoccupée. Puis, j'avais pas soupçonné au jour 1, mais définir les valeurs de cette entreprise-là, puis ça a l'air d'un beau gros cliché mielleux, là, mais définir les valeurs de cette entreprise-là et mes valeurs comme leader de cette entreprise-là, ça a été clé. Parce que on est revenu au fil de la progression de cette entreprise-là pour plein de raisons, dans plein de scénarios. On revenait constamment à notre compas moral. On revenait constamment à nos valeurs. Nous, on est là pourquoi, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Puis il y a beaucoup de décisions d'affaires qui se sont prises en fonction de ça. Donc, la première année, c'était beaucoup ça. C'était autant des questions business, comme, tu sais, business d'affaires, de comment on est capable de rentabiliser ça, cette affaire-là. Y a-tu un marché? Y a-tu... C'est-tu un feu de paille? Tu sais, toutes ces questions-là. Puis les questions éthiques. Parce qu'il se pose rapidement les questions éthiques quand tu travailles avec des jeunes comme ça. Très rapidement. Des jeunes et des marques. Qui influencent des jeunes. Okay. Qu'est-ce qu'on accepte d'où de faire et comment valeurs. On va le faire. On revenait souvent à nos valeurs.
Ouais. Est-ce que les trois valeurs, ou bref, les valeurs que tu avais déterminées, est-ce que c'était important pour toi que ça soit, je vais dire un mot tendance, là, mais très disruptif par rapport aux valeurs de l'attraction pour vraiment marquer le coup? Ou tu aurais pu prendre les trois valeurs de l'attraction puis les juste dire « Ah, mais chez nous, voici comme c'est de cette façon qu'on les interprète. »
Hey, c'est fou, hein, parce qu'au moment où on a parti ça, les valeurs de chez Attraction n'étaient pas vraiment définies.
OK.
Ils ont été écrits sur le mur, mais comme des années plus tard.
Ah, OK.
En fait, puis c'est fou, j'ai même pas pensé à ça.
Fait que toi,
je suis partie de moi. Je suis partie de ce en quoi je croyais.
Dans ta démarche, quand même, c'était important.
Pourquoi je pensais que cette business-là, elle devait exister, puis comment elle devait exister.
OK.
Puis tu sais, je peux te donner des exemples super concrets de comment les valeurs se sont appliquées. Et tu sais, ça a l'air bien cliché, encore une fois. Mais moi, j'avais envie de représenter des gens qui avaient envie d'avoir une voix parce qu'il y avait quelque chose à raconter, parce qu'il y avait un art à partager, parce qu'ils voulaient connecter avec une communauté autour d'eux. Moi, j'allais pas me lever le matin pour des jeunes qui allaient chercher des likes. Ça aurait pas collé avec moi. Puis je l'ai entendu, ça, quand on passait des talents, des YouTubers, des influenceurs en session de recrutement, si on veut. J'ai entendu de tout, moi. J'ai entendu, moi, je fais ma chaîne YouTube parce que j'en vois pas des filles comme moi autour de moi. Puis je pense que les filles comme moi, avec mes caractéristiques, méritent une voix sur Internet. Parfait. Viens dans mes bras, de un. De deux, high five, on part. Après, je me posais les questions, est-ce que je suis capable de faire travailler cette personne-là puis la monétiser, avec des gros guillemets. J'ai aussi entendu dans des rencontres comme ça, ben moi, c'est ça, je me suis rendu compte que, comme, tu sais, si j'en fais beaucoup des vidéos, je pourrais, comme, faire de l'argent, lâcher l'école, m'acheter une maison. J'étais comme, ah, tu vois, ça cadre pas vraiment avec nos valeurs. Ouais. Ça t'invalide pas comme individu, mais ça cadre pas avec nos valeurs d'entreprise. Tu peux aller voir chez le voisin. Parfait, tu sais. Fait qu'un peu de tout ça, même chose du côté des marques qui nous approchaient à ce moment-là. Tu sais, on en a reçu quand même beaucoup, là, des demandes, là, pour faire la promotion de thé amaigrissant auprès d'une clientèle adolescente. Ouais. Moi, c'est certainement pas pour ça que je me lève le matin.
Ouais.
C'est certainement pas pour aller porter ces messages-là, tu sais. Fait que... Mais ça a l'air clair comme ça, mais parfois, ça ne l'était pas tant que ça.
C'est clair,
parce
c'est
que sûr. Tes valeurs ne sont pas nécessairement les miennes.
Mais ouais.
Ce que tu aimes, c'est ce en quoi tu crois, ce n'est pas nécessairement ce en quoi je crois. Si parfois, on se faisait approcher par un casino en ligne. Toi, tu as 18 ans, tu as le droit d'aller jouer au poker en ligne. C'est tout à fait légal. moi, qu'est-ce que j'en pense de ça? Je suis-tu à l'aise de faire la promotion de ça? Oui, mais toi, c'est ton droit. Tu peux gagner ta vie. Je suis qui comme ton agente pour t'empêcher de gagner ta... Tu sais, il y a eu quand même souvent, on est revenu à notre compas moral. Puis c'est quelque chose qu'on a déterminé dès la première année puisqu'on n'a pas eu le choix.
Et le compas moral, c'est tellement, je trouve, un beau terme. C'est tellement intéressant.
Ouais.
Est-ce que tu as eu à un peu à te justifier auprès d'Attraction? Tu sais, souvent, je vais revenir avec cette relation-là, parce que t'es quand même une business dans l'entreprise, mais t'étais-tu, genre, 100% maître de tes décisions? T'étais redevable à qui? Combien de fois t'allais voir le board? Tu sais, valeur, c'est cool. Tu sais, c'est des mots, c'est important, on s'entend, c'est clair. C'est plus que des mots, clairement. Mais quand on venait parler de, je sais pas, d'un contrat, de tu sais, finalement, d'avoir plus d'argent et tout ça...
De rentabilité.
Ça fonctionnait comment, cette mécanique-là?
Tu sais, c'est ça, je te dirais que pendant les premières deux années, trois années, on était encore comme la petite bébite expérimentale. Fait que je devais quand même pas trop de comptes. Tu sais, je coûtais pas très cher. Comme l'entité coûtait pas très cher, faisait ses frais. Il y avait une forme de croissance parce qu'on représentait de plus en plus de gens, on avait de plus en plus de clients. Fait que je n'avais pas énormément de comptes à rendre, pour être bien honnête.
Ce qui est bien.
Ce qui est bien, parce que j'ai vraiment j'ai pu faire ce que j'ai voulu, là, ou, tu sais, comme j'ai voulu.
Ce qui est bien, parce que tu as beaucoup d'autonomie, parce que peut-être qu'une personne aurait voulu être peut-être fact-checkée un peu plus ou plus encadrée, peut-être.
Oui, il ne faut pas être entrepreneur. Faudrait pas être entrepreneur. Si on veut être encadré, si on veut se faire dire quels vont être nos objectifs cette année, si on veut se faire dire quels vont être nos processus à respecter, alors il faut être un super bon employé dans une entreprise, mais pas un entrepreneur et encore moins un entrepreneur. Il y a vraiment ce côté-là de l'entrepreneuriat qui existe en entrepreneuriat, qui est le côté, tu sais, tu te poses beaucoup plus de questions que tu as de réponses. T'explores, tu testes, tu le sais pas trop. Il y a un côté très instinctif à ça aussi. Tu suis ton feeling, ton fameux feeling, là. Je pense que, tu sais. Oui. Si tu veux te faire donner les réponses ou le chemin à suivre, sois un super bon employé motivé. Puis ça va être beaucoup mieux pour ta santé mentale, tu sais.
Wow. C'est un terme que j'aime beaucoup dire, mais là, tu viens de dropper tellement de gems, tellement de diamants dans les 30 dernières minutes. Mais c'est vrai parce que, tu sais, la gang qui écoute, oui, on lit des articles, oui, on échange, ils participent sur des forums, ils font des recherches de ce qui se fait, mais toi, tu l'as vécu pour vrai, là. Puis à ce stade-ci de la session, je trouve que ça vient prendre toute sa valeur. C'est parce que tu mets des mots sur une réalité, tu sais, qui a été la tienne. Puis qui peut inspirer des gens. Parce que, tu sais, j'avais une question que je m'étais notée. C'est quoi, tu penses, tes deux, trois forces qui t'ont permis de réussir? Mais c'est une question qui ne demande même pas de réponse parce que c'est clair depuis le début, tu sais, de la façon que tu l'expliques. Et on les voit, on les reconnaît, tes forces. On comprend pourquoi ça a fonctionné et ça fonctionne toujours.
Mais je te dis, c'est l'heureux équilibre, tu sais. C'est l'heureux équilibre entre avoir... moi, je suis beaucoup, beaucoup drivée dans la vie, dans ma carrière, par j'ai vraiment besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va, avoir la vision. L'étoile du Nord, là, qui est loin, mais savoir qu'on marche dans cette direction-là, pour moi, c'est très, très, très important. C'est important de savoir où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, comme entreprise, pour savoir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui.
Et pour Slingshot, c'est toi qui déterminais cette vision de 5 ans?
Oui,
et...
Si on fait des collègues, là, ici et là, c'est ça, là.
Mais si on fait parler avec Germain Hontel, excuse-moi, je t'ai coupé parce que j'ai trop de questions, là. Si on compare avec ton poste actuel, on fait un rapide parallèle, cette vision de 5 ans, tu mets ta pierre à l'édifice ici aussi, mais il y en a peut-être, il y a Marie-Pierre Germain, il y a Mme Germain, tout ça aussi.
C'est différent.
Comment, de quelle façon c'est différent pour toi qui a vécu l'entrepreneuriat et maintenant un poste de gestion hyper important, mais pas comme entrepreneur, right?
Non, j'ai pas été embauchée ici pour partir un nouveau brand lifestyle de cocktail premix par Le Germain, là, tu sais.
Oh, vraiment bonne idée, pas. OK!
Tu comprends vraiment pas, j'ai été embauchée ici pour faire fonctionner la machine principale, qui est la machine de l'hôtellerie et de la restauration, là. J'ai pas été embauchée pour branch out,
tu sais. Exact.
Comment je le vis? Mais tu sais, c'est sûr que mon expérience est comme un peu particulière parce que moi, je suis entrée en poste ici, Le grand destin des choses a fait en sorte que ma dernière journée dans mon entreprise au Slingshot, que j'avais prévu et préparé des mois à l'avance, mais ça a donné que la dernière journée, c'était le 13 mars 2020, tu sais. Wow. Que je laissais cette entreprise parce que j'étais tellement convaincue qu'elle allait bien aller sans moi. Et le monde a arrêté de tourner. Donc, ce qui fait en sorte que moi, je suis ici chez Germain Hôtel depuis la crise. Et puis, c'est sûr que dans un moment de crise, dans un moment de difficulté où c'est du brouillard très, très, très épais qu'on avait devant les yeux. On voyait vraiment pas beaucoup à l'avance, là. Puis, tu sais, là, ça va un peu mieux, mais quand même, on n'est pas sorti du bois, tu sais. C'est pas dans ces moments-là que c'est le temps de vouloir partir une autre business à côté, puis de se dire qu'on veut partir ceci, cela, puis inventer un nouveau stream de revenus, puis inventer une nouvelle façon de toucher des clients. Et non, 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 notre façon principale en ce moment est en danger. Fait qu'on va s'occuper de nos activités principales, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas mon rôle depuis que je suis arrivée. Si on avait à le faire éventuellement dans l'entreprise, c'est-à-dire partir un sideline, partir une autre chose, je serais certainement de l'équipe des porteurs du drapeau, là. Mais depuis un an et demi, l'entreprise a vécu un tellement grand choc, un changement de clientèle, des mesures auxquelles il faut s'adapter constamment, des annulations, des réservations, d'autres annulations. C'est tellement beaucoup que c'est pas vraiment le temps de se mettre à penser à qu'est-ce qu'on va pouvoir développer ou même de se dire où est-ce qu'on va être dans 5 ans. Parce que quand ça brasse à ce point-là, on veut juste être là dans 5 ans. Puis c'est juste ça le focus. Puis plus on va mieux, parce que là, on va un peu mieux. On s'est sorti la tête de l'eau cet été. Ça a vraiment été un point de pivot cet été. Ça va mieux. L'entreprise n'est plus en danger. Puis tout ça, bon. Plus ça va mieux, plus tu peux recommencer à voir puis à mettre des objectifs de vision dans le futur. Mais quand c'est le gros de la crise, tu tombes en mode survie. C'est des mécanismes différents quand même, là.
C'est là qu'on voit que peut-être d'autres compétences que tu as,
ouais,
sont mises à profit. Puis t'en as, tu sais, justement, t'sais, un peu ta vibe de créatrice, de penser à d'autres projets, là, c'est peut-être plus en veille en ce moment.
Ouais.
C'est un peu comme ça.
Oui, c'est clair. C'est ça, okay. Non, c'est clair, c'est clair. C'est pas mort, mais non. Ça hiberne.
Puis en même temps, t'es comme un triptyque, j'ai l'impression. Il y a ta branche professionnelle, il y a ta vie personnelle qui, mm-hmm, je veux dire, ça t'appartient, que tu joues au basket une fois semaine ou peu importe. Mm-hmm. Ça t'alimente,
mm-hmm,
ta vie privée. Puis il y a ton implication sociale également. Mm-hmm. On parlait tantôt des Creative Mornings, Fell Camp, t'es sur le board de C2 Montréal également. Mm-hmm. Théâtre
du Trident à Québec. Ouais.
Donc, on revient à ce que tu dis au début par rapport à la culture.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est clair, j'imagine que tu es stimulé de tellement de façons différentes. Mm. Est-ce que ça te manque un peu cette drive de l'entrepreneuriat ou justement, tu sais, avec la crise, tu as été assez sollicité en termes d'émotions?
Ben, c'est une question qui est vraiment personnelle. Je ne suis pas sûre que ça s'applique. Comme, tu sais, je pense que c'est du cas par cas. Ouais. Dans mon cas particulièrement, je pense que je suis à mon meilleur quand je dois porter un projet qu'on ne sait pas trop où ça va s'en aller. Je pense que je suis à mon meilleur pour faire un projet qu'on n'a jamais fait avant. Faire fonctionner une machine, faire rouler une machine, je peux faire, mais je pense que je suis à mon meilleur quand il faut aller vraiment faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Sincèrement, là, puis un mini exemple de ça, c'est... J'ai eu un courriel de quelqu'un que je connaissais du festival que j'avais fait juste pour rire. J'ai eu un courriel au mois de mars dernier, tu sais, qui me disait « Salut Gabrielle, je suis maintenant rendue chez Landmark, on fait le festival mural. Hey, pour cet été, pour le festival mural, j'aurais besoin d'une quinzaine de chambres pour héberger mes muralistes. Penses-tu qu'on peut se faire un petit contre-échange sur le site? » Ce à quoi j'ai répondu « Oui, oui, tes nuitées, on s'en occupe, mais I have a dream. » Puis, tout de suite, moi, j'ai vu une opportunité, j'ai mis le pied dans la porte. Un meeting, deux meetings, trois meetings plus tard, c'est ce qui a donné une immense murale de 17 étages sur l'hôtel Le Germain Montréal. Voir une mini-opportunité, puis tu sais, là, comme sur un fil, là, quand, ouais, tu tires le fil, puis là, finalement, ça donne quelque chose de très gros. Il y a un petit réflexe entrepreneurial là-dedans. Il y a un petit réflexe, un petit oomph. Tu me donnes un pied. Si je vois une opportunité, je vais prendre 10 pouces. Tu me donnes un pouce, je vais prendre 10 pieds, ouais, pardon. puis pas juste à mon bénéfice, au bénéfice de tous, là, voir ça, là, avoir ce petit oomph-là de vouloir faire plus ou plus grand ou quelque chose qui n'a pas été fait avant. Puis tu sais, au moment où on a commencé la murale, on n'avait vraiment pas toutes les réponses, là. Je me souviens de quelques appels un peu nébuleux avec notre avocate, là.
OK.
Oh. J'étais comme, OK, bon, donc là, on me questionne sur la porosité des matériaux. Parfait, je note. Vous êtes
propriétaire du bâtiment?
Oui, oui, okay, c'est ça. Mais c'est moi, ça, personnellement, j'étais comme, je vais prendre des notes. La porosité, OK. La porosité, parfait. Tu sais, mais parce que, puis le refaire demain matin, ça me ferait plaisir. Mais il n'y aurait pas ce même oomph-là parce que je l'ai déjà fait.
OK.
Ouais.
Ah, ça, c'est intéressant. Puis... est-ce qu'il y a peut-être une question un peu technique, puis ensuite j'ai peut-être deux derniers points, ouais. Deux, trois rapid fire questions, oh, puis on va conclure ça ensemble. Là.
OK.
Est-ce que, vraiment une question technique là, est-ce que tu vois une différence entre un entrepreneur et un gestionnaire de projet?
Hmm. Oui, quand même, là. Quand même. Ça dépend du contexte qui est donné, là. Mais le gestionnaire de projet va pas essayer d'inventer quelque chose de nouveau complètement. Le gestionnaire de projet va mener à bien un projet qui s'inscrit déjà, par exemple, dans le modèle d'affaires de l'entreprise. Ce qui vient beaucoup avec l'intrapreneuriat, c'est que souvent, c'est un autre modèle d'affaires que le premier modèle d'affaires de l'entreprise. Tu sais, je reviens à mon exemple, puisque c'est ce que je connais le mieux, mais tu sais, le modèle d'affaires de chez Attraction Média, c'est de vendre des shows télé à des diffuseurs télé. Moi, j'arrive, puis je suis comme, ouais, non, finalement, je vais signer des talents d'Internet, puis je vais vendre leurs vidéos ou leurs photos à des marques. C'est pas le même modèle d'affaires, c'est pas les mêmes clients, c'est pas le même écosystème, c'est pas les mêmes montants.
Oui.
On s'entend que moi, je faisais beaucoup plus de petits deals, tu sais, vraiment, ouais, là, beaucoup plus de petits 2 000, de petits 4 000. Quand tu vends un show TV, c'est comme 4 millions, la shot, merci, bonsoir. Tu sais, c'est comme, c'est ça une grande différence, c'est que souvent, en entrepreneuriat, tu vas aller chercher un nouveau modèle d'affaires où tu vas devoir raffiner un modèle d'affaires, des clients différents, une autre façon, un autre type de contrat, un autre domaine peut-être d'expertise même moins. Fait que le gestionnaire de projet va souvent s'aligner dans ce que l'entreprise fait déjà bien, puis mener ben, son projet, qui parfois est un projet original, mais qui s'inscrit dans le même modèle d'affaires. L'entrepreneur va amener un nouveau stream de revenus dans un nouveau modèle d'affaires potentiellement avec des nouveaux clients puis une nouvelle façon de faire de la business.
Ça n'a rien à voir.
Non.
Parce que souvent, on mélange les deux, tu sais. Ah, tu sais, moi, je suis entrepreneur parce que j'ai un projet puis j'ai un dossier à amener.
Non.
Ça n'a rien à voir.
Non, puis c'est pas moins bien, là.
Exact.
C'est pas moins glamour, là. Non. C'est juste, c'est différent. C'est
vraiment intéressant. C'est quoi ta vision globale, tu sais, de l'accueil, de l'hôtellerie, les transports, divertissement, tu sais, qui est un monde que tu connais vraiment. Au niveau de l'intra, tu sais, toi, tu as pu faire ça dans les médias,
mm-hmm.
assez propice,
mm-hmm.
plus start-up-ish.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, parenthèse, guys, pour ceux qui écoutent, la première fois où je t'ai connu, c'était, je pense, dans le 30 under 30 d'InfoPresse. Ouais. Donc, ça fait quoi?
C'était le premier 30 under 30. Okay. Ouais.
C'est quoi, ça fait peut-être 3-4 ans, ou peut-être un peu plus même.
J'avais 28 ans.
T'avais 28 ans, donc...
6 ans.
OK, tout le monde prenait des notes. Ça fait 6 ans déjà, je me souviens encore, je trouvais ça vraiment cool de voir Slingshot. Donc, tu sais, ça fait longtemps là, que t'es là, tu as une crédibilité, puis encore tellement à donner. Donc, c'est quoi ta vision, tu sais, par rapport à l'hôtellerie, la restauration, puis l'entrepreneuriat? C'est-tu quelque chose, tu penses, c'est-tu un milieu, en toute honnêteté, là, ta vision, c'est-tu propice à l'intra? Y a-tu des groupes, des grandes chaînes qui auraient peut-être plus de moyens pour faire des spin-offs? Comme ça, à chaud, là, ta vision de l'accueil au Québec, dans le monde?
Oh mon Dieu, c'est vraiment une question tricky pour moi. Là.
Tricky un peu.
Ouais. Hein? La réponse, c'est je ne sais pas.
Ouais.
Je peux répondre. Moi, je ne connais qu'une vision de l'accueil et de l'hospitalité qui est la vision Germain Hôtel.
Ouais.
Puis moi, je ne travaillerais pas chez qui que ce soit d'autre en hôtellerie. Je suis pas venue... Wow. Moi, je suis venue travailler pour les entrepreneurs que sont les Germains.
Ça, c'est fort. Tu parlais de valeur tantôt. Ouais. Ça te rejoint grandement. Quoi.
Moi, je suis venue travailler pour une famille du Québec Inc. qui fait un produit en lequel je crois. Je suis pas venue travailler en hôtellerie.
Ouf. Là, vous voyez pas, j'ai des frissons. Ça, je tiens à le dire. C'est extrêmement fort. Wow!
Ça veut pas dire que j'aime pas l'hôtellerie ou que ça m'intéresse pas, mais oui, ça veut dire sûr. Que j'irai jamais travailler dans le groupe d'à côté. Tu sais, je veux dire, moi, je suis ici parce qu'il y a ces entrepreneurs-là qui m'intéressent, puis j'avais envie de m'y coller, tu sais. Fait que je ne peux parler que de leur vision à eux. Je pense que Germain Hôtel est un terreau fertile aux nouvelles idées. Je pense que c'est plus difficile quand t'as la tête sous l'eau.
Ouais, ouais.
Fait que c'était peut-être pas le bon moment depuis 18 mois, mais je pense définitivement que c'est la bonne place pour venir faire des projets un peu sideline. Là.
Et quand tu dis que c'est un terreau fertile, est-ce que c'est parce que justement ce sont des, des entrepreneurs?
C'est une famille d'entrepreneurs. Ils pensent comme des entrepreneurs. Et puis c'est à eux. Donc, tu t'as pas de permission à demander. Tu veux le faire, tu le fais. Fait que oui, vraiment, définitivement. Puis des exemples de ça, tu sais, petits qui me viennent en tête rapidement, mais tu sais, je veux dire, le fait de comme on se fait tout le temps dire que nos lits, c'est les meilleurs lits du monde, puis que les gens ont le meilleur sommeil de leur vie chez nous.
Je confirme. Ben,
commercialisons la literie. Tu sais, je veux dire, c'est ce qu'on fait avec un partenaire qui est québécois aussi, qui est familial aussi, qui est Simons. Tu sais, c'est un petit exemple, là. Mais ça, tu vois, ça s'inscrit pas tout à fait dans le même modèle d'affaires. Là, ça, je vends en retail. C'est ça, c'est un peu l'entrepreneuriat. Il y aurait peut-être de quoi faire de plus, tu sais. Ouais, ouais. Ah. Fait que oui, je pense que je peux pas parler pour les autres, mais là où je suis présentement, c'est un terreau fertile à ça, crise permettant, disons.
Reprise permettant. Ouais. En effet, et moi, j'espère que tu vas rester longtemps au sein de Germain Hôtel parce que j'ai vraiment hâte de voir la façon dont tu vas laisser ta marque. Tu sais, en ce moment, on a vraiment une discussion, je trouve, très stratégique, très high level, puis je sais que tu aurais pu le pousser encore plus loin et j'aurais pu discuter encore 2 heures avec toi, mais parce que tu as vraiment une vision là, extrêmement intéressante, puis j'ai hâte de voir ce que tu vas faire
ici,
dans tes nouvelles fonctions au Saint-Germain Hôtel. Je pense que ça, c'est que du beau, je pense, qui va venir, parce que, tu sais, pour connaître des gens avec qui tu travailles, tout ça, mais tu as vraiment un style de leadership très, très intéressant, très, très sportif, très... tu vas dire les choses, puis en même temps, t'es extrêmement motivante de par ta simple personne.
Ouais, je sais que je suis une leader très... moi, c'est très important pour moi de savoir où on s'en va, de connaître la vision, et c'est important pour moi que tout le monde dans l'équipe, dans tous les rôles, de mes plus proches collaborateurs jusqu'à la stagiaire qui n'est pas là longtemps, pour moi, c'est important que tout le monde soit aligné au niveau de la vision. Je sais que c'est pas tout le monde qui carbure à ça autant que moi. Il y a des gens qui carburent beaucoup plus au quotidien, tu sais, puis à la quotidienneté, puis à la tâche à accomplir aujourd'hui, mais ça reste que moi, mon style de leadership, c'est... Il y a vraiment quelque chose de capitaine d'une équipe ou capitaine d'un bateau, tu sais, qu'il faut qu'on pointe dans la même direction. C'est super important. Moi, ça part de là beaucoup. Fait que depuis que je suis là, écoute, là, on travaille-tu notre plan de vision puis notre plan annuel? Puis tout ça, c'est sûr. C'est plus que ça n'a jamais été fait. Ça, c'est mon style.
Ah, c'est cool.
J'ai aussi un style très, très cheerleader. Là. Très, très, très... J'encourage beaucoup. Là. Tu fais comme quelque chose que je trouve cool, je vais te le dire 4 fois là, que je trouve ça cool. Puis que wow! Puis vraiment. Fait que j'ai un style très... C'est ça, là. De coach, là. Ouais.
Mais très, très 2025. J'ai l'impression que t'es très...
je sais pas.
En tout cas, ben, moi, j'ai pas mal l'impression que c'est... Tu incarnes le nouveau style de gestion. On s'éloigne un peu du sujet, mais il y a cette façon, je trouve, que depuis le début de ta carrière, tu repères la tendance, puis tu l'appliques. Tu fais ce que tu dis, j'ai l'impression, beaucoup.
Oui. Un de mes grands champs d'intérêt, puis une de mes grandes passions, c'est le futur. Ça m'intéresse plus de savoir qu'est-ce qui s'en vient que de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant ou qu'est-ce qui s'est passé. Je suis toujours un peu... Ce qui m'intéresse, c'est l'après, tout le temps.
Wow! Et je suis certain que tu donnes envie à la gang d'être curieux, de lire. Et parlant de lecture, tout ça, quelques questions très, très rapides. Un livre qui t'a marqué le plus. Prenez des notes. Un livre qui t'a marqué le plus, que ce soit pro, que ce soit une bio, un roman. Je sais que c'est une des pires questions à poser, là.
Oui, mais... t'aurais dû me l'envoyer par courriel avant.
Oui, je sais. Oui, je sais, on voit que j'ai pas ton organisation. J'aurais dû le faire avant, mais ça me vient comme ça sur le moment parce que je suis certain que... ça peut être très inspirant de savoir ce que tu lis, tu sais, de ce qui t'intéresse.
Je dirais 2 choses. Un livre que j'ai beaucoup aimé lire au moment où je l'ai lu, c'est-à-dire quand je suis devenue gestionnaire, ça s'appelle Lean In. c'est de la celle qui était à ce moment-là la numéro 2 de chez Facebook, dont le nom m'échappe évidemment présentement, ouais. Puisque tu peux pas envoyer ta question par courriel. Oui.
je et mettrai donc, les liens dans le...
Lean In, ouais. Qui est un livre sur le... qui est un gros power talk aux filles, aux femmes dans les milieux corporatifs. Avec toutes sortes de trucs, toutes sortes d'observations à se passer, puis sur la place des femmes. Dans un boardroom comme dans une réunion d'équipe, là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette lecture-là. J'applique ce que j'ai lu là-dedans comme quotidiennement, là. Puis quand j'ai été embauchée en hôtellerie, je me suis pris des livres d'hôtellerie, tu sais, you know, pour comme essayer de comprendre un peu. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé Be Our Guest,
ah ouais.
De l'Institut Disney, là, qui a un côté tellement créatif, une approche tellement créative à l'accueil, puis ça m'a beaucoup parlé, là, cette vision-là, là, qui passe par les cinq sens, là, d'accueillir des gens, puis être on stage et off stage au lieu d'être à job, puis plus à job. Tu sais, je veux dire,
c'est un classique.
C'est un classique.
Même dans le narratif, dans les termes utilisés, là, dans les référents, là, c'est vraiment intéressant.
Vraiment. C'est intéressant, puis c'est intéressant aussi pour tellement de... Disney, c'est tellement une bébite qu'on peut étudier de plein d'aspects, mais tout le côté langage... comment ils décident de nommer les choses on stage, off stage. C'est pas des employés, c'est des cast members, c'est des membres de la troupe, là, ouais. Si on veut en français, c'est mal dit. Là. Comment tu nommes les choses influence tellement. C'est tellement important comment on nomme les choses, comment on nomme les gens, comment on nomme les titres. Ça en dit beaucoup après ça. Ça change notre façon d'agir. Fait que j'ai beaucoup aimé Be Our Guest.
Même dans l'organisation aussi, tu sais, il y a le fameux. Il y a toujours un personnage qui salue les gens quand les gens quittent du resort ou du parc d'attractions.
Le greeter,
salut, merci beaucoup d'avoir été là. Mais c'est 17 minutes dans l'horaire max parce qu'ils ont calculé qu'après la 17e minute, tu commences à être trop
fatigué,
un peu blasé. Ciao, merci. Fait que c'est 17 minutes sur l'horaire, ça coûte 17 minutes. Fait qu'ils vont d'un point en point. Donc, c'était optimiser un peu l'accueil à fond, là, tu sais.
Ah non, ça, mais c'est... moi, ça m'avait... Surtout le bout sur les sens, là, ça m'avait vraiment beaucoup parlé, là, que quand tu te promènes dans la section qui est plus far west d'un parc Disney, il faut que le matériau qui est utilisé pour faire les sentiers, ça file comme si tu étais dans le far west. Puis quand tu touches telle borne, la texture est importante. Tu sais, là,
exact.
Pousser la philosophie d'accueil à ces niveaux-là.
Même le chariot du gars ou de la dame d'entretien, là, ça peut pas être le chariot d'entretien, que ça soit déguisé, que ça soit pensé. On voit jamais une voiture parce qu'il y a toute une ville en dessous pour les fournisseurs qui arrive, parce que tu peux pas croiser un camion.
Mais non,
ça se fait pas, ça tirait la magie.
De la même façon que tu peux pas croiser Blanche-Neige avec sa Apple Watch.
Exactement.
Parce que ça briserait un peu.
Tu sais, genre qui fume une clope à sa pause, ça marche pas.
Ça m'avait allumé beaucoup de choses.
Ah, c'est super intéressant. Peut-être deux dernières petites questions super rapides, puis ensuite je te laisse aller à tes mille et une responsabilités. Tu aimes les nouvelles expériences, t'aimes bouger. Un voyage qui t'a fait triper récemment?
Ah, ben là, c'est facile, mon Dieu! Récemment, j'avais quelque chose à célébrer cet été, puis avec les contraintes qu'on avait, j'ai eu très, très peur de ne pas pouvoir le célébrer. Puis finalement, on est embarqué dans un avion direction St. John's, Terre-Neuve, puis je pensais pas trouver tout ce que j'ai trouvé sur cette île-là. J'ai adoré aller découvrir le Canada Atlantique. J'ai fait parmi les plus belles pistes de trekking de ma vie. On a bien mangé, puis on a respiré l'air de l'océan. Puis sincèrement, le grand bien que ça nous a fait, St. John's, Terre-Neuve, impérativement.
Parce que vous avez bougé partout dans le monde, puis même toi, ça beaucoup. T'a surpris, ça,
Ah oui, j'ai beaucoup voyagé, ben oui, absolument, là, sur tous les continents, puis tout ça, mais non, St. John's, le secret le mieux gardé du Canada.
Ah, c'est nice. Puis évidemment, il y a un halt, hein, ça, je tiens à le dire. Et le restaurant le Terre également. Donc ça, je pense qu'il faut le dire, non? Et tu sais, tu as parlé un petit peu de l'échec fail camp, de l'importance. Mais je voudrais connaître peut-être en conclusion, parce qu'il y a un lien aussi avec l'intro de quand tu développes un projet, c'est quoi ta définition de succès? Tu sais, de dire, c'est un succès ou non? Sais-tu, est-ce que la ligne est-tu mince? C'est-tu évident pour toi de dire que c'est un succès?
C'est sûr que j'ai une définition très, très personnelle de ça qui est... moi, je trouve ça beaucoup, beaucoup plus gratifiant. Je reviens à ce que je disais précédemment, mais faire fonctionner quelque chose pour la première fois. C'est un succès pour moi, c'est faire rouler quelque chose qui n'a pas roulé avant. Après, ça ne veut pas dire que je ne m'accomplis pas dans le reste, là. Apporter quelque chose de nouveau, briser un nouveau record, amener une nouvelle clientèle chez Germain Hôtel, par exemple, trouver une nouvelle façon de leur parler. Pour vrai, il y a vraiment ça en dedans de moi. Répéter une formule qui fonctionne, il y a plein de monde qui s'accomplissent là-dedans, puis qui la perfectionnent, puis qui passent d'une formule qui fonctionne à 97% pour l'amener à 98%, puis c'est tout aussi difficile. Ouais. Mais moi, je trouve pas... Moi, j'aime mieux partir de 0%, puis trouver un peu, moi, mon chemin là-dedans. Ouais.
Gabrielle Madé, merci tellement!
Avec plaisir.
C'était tellement enrichissant. On a parlé de ton parcours d'entrepreneur. On a fait des liens avec Germain Hôtels, des conseils, un peu ta vision. C'était franchement super enrichissant. Puis je te remercierai jamais assez.
Grand plaisir.
Merci. Salut tout le monde.